Chapitre 5. Il y a dans la ville de Manchester, perdus au milieu de la foule, certains ouvriers dont peut-être niera-t-on l'existence, et qu'on pourrait placer sur la même ligne que les savants les plus illustres. J'ai cité Manchester, j'aurais pu nommer toute autre ville du Lancashire, dans les voisinages d'Oldham. Par exemple, on rencontre des tisserands, simples manouvriers, désignés sous le nom de bras, qui ont à côté d'eux, sur le métier où sans relâche ils agitent la navette, les principes de Newton qu'ils entr'ouvrent pendant le jour et qu'ils passent les nuits à lire avec délice. Plus d'un parmi ces hommes incultes, au langage incorrect, à la figure vulgaire, qui sortent des fabriques à l'heure où la nuit tombe, rentre chez lui en pensant aux problèmes que la science examine, qu'il cherche et que souvent il parvient à résoudre. Mais surtout, certaines branches de l'histoire naturelle ont de fervents adeptes parmi ces hommes intelligents et simples. Il s'en est trouvé à qui les œuvres de l'inné sont aussi familières que les plantes de leur propre canton, dont ils savent les mœurs, le nom et l'habitat, qui se donnent le luxe d'un jour de vacances à l'époque où va s'ouvrir certaines fleurs, et s'en vont, à un morceau de pain dans leur poche, battre les champs ou les bois pour y trouver la plante qui manque à leur herbier. D'autres, le filet ou la drague à la main, pourchasse les insectes jusqu'au fond des étangs et laisse tomber sur l'échantillon d'une espèce rare ou nouvelle ce regard plein de finesse et de ravissement qui caractérise le savant amateur. Citons un fait bien connu, à l'appui de ce que j'avance. Un jour que Smith chez Roscoe s'informait d'une plante extrêmement rare qu'on lui avait dit croître aux environs de Liverpool, Roscoe, à qui la plante n'était pas même connue, déclara que, si l'on pouvait en savoir quelque chose, ce serait d'un tisserand de Manchester, qu'il s'empressa de nommer. Smith fut bientôt dans la ville désignée, et s'adressant au premier portefaix qu'il trouva sur son chemin, il lui demanda si, par hasard, il pouvait lui dire l'adresse du tisserand qu'il cherchait. « Certainement, répondit l'homme, nous nous connaissons bien, aimant tous les deux les plantes. » Et il arriva qu'après plusieurs questions, le portefaix, aussi bien que le tisserand, puis donner sur la plante inconnue tous les détails que Smith voulait avoir. Le grand-père de Marguerite, l'un de ces savants ignorés, était un petit vieillard sec et nerveux, n'agissant que par saccades, comme si tous ses membres eussent été mus par un fil, et dont le front large et dégarni, qui formait à lui seul plus de la moitié du visage, surplombait les yeux rayonnants d'intelligence, au regard si pénétrant qu'on leur eût accordé la faculté divinatoire. La chambre où se tenait ce singulier personnage ressemblait d'ailleurs passablement à la demeure d'un sorcier. Sur les murs, de grands cadres de bois renfermant des insectes, des planches couvertes de bocaux et de bouteilles singulières remplies d'objets bizarres. Sur la table, des livres aux figures symboliques et de mystérieux instruments dont Job Legg précisément faisait usage quand sa petite fille entra. Le vieillard releva ses lunettes en voyant Marguerite, lui dit bonsoir d'une voix caressante et l'embrassa tendrement.
« Est-ce que votre grand-père dit la bonne aventure ?»
demanda tout bas la pauvre Mary, presque effrayée de tout ce qu'elle voyait dans cette chambre.
« Non, répondit Marguerite, mais vous n'êtes pas la première qu'il ait cru sorcier. Il aime seulement une foule de choses que peu de personnes connaissent. Et vous, Marguerite, est-ce que vous savez le nom de toutes ces vilaines bêtes-là ?
J'en connais quelques-unes, dont j'ai appris l'histoire pour faire plaisir à mon grand-père. Vous voyez cet horrible scorpion. Grand-père l'a rapporté de Liverpool, à un voyage qu'il fit l'année dernière. Les marins ont toutes sortes d'affaires qu'ils ramassent dans les contrées lointaines. Ce scorpion est très rare et ne se trouve qu'aux Grandes Indes. Le matelot qu'il avait pris derrière une balle de riz en déchargeant le navire le croyait mort de froid. Grand-père le vit et l'acheta pour un shilling.
« 2 shillings !» interrompit Job Legg. « Et je fis un bon marché !»
Grand-père revient, tire la bouteille de sa poche, et pour mieux me le faire voir, ôte le scorpion de la bouteille. Nous étions devant le feu, un grand feu, car je repassais. Je quitte mon fer et je m'approche. Grand-père ouvre son livre et se mit à lire tout haut que cette espèce est très venimeuse, que sa piqûre donne la mort. Je regardais toujours le scorpion, que je vois remuer tout à coup, et qui se met à courir en se dirigeant vers moi. Je grimpe sur une chaise en criant comme une folle et suppliant grand-père de tuer la mauvaise bête. Mais grand-père ne voulait pas écraser son scorpion. Il découvre la bouilloire, prend les pincettes et saisit l'animal qu'il plonge dans l'eau bouillante. Puis, quand la bête fut bien morte, il la fourra dans ce bocal. Et depuis lors, elle est restée dans le gin. « Je suis bien contente, » dit Mary, « que mon père n'aime pas toutes ces choses-là. »« Mais bien au contraire, » répondit Marguerite, « je suis heureuse de voir grand-père aimer passionnément toutes ces plantes et ces bêtes. Il est si content de les retrouver quand il rentre, ou de s'en aller au loin pour en chercher de nouvelles. Tenez, le voilà dans ses livres, et plus heureux qu'un roi. Il est vrai que ça l'empêche de causer, mais aussi, quand une fois il s'y met, que de choses il me raconte. » Avant la fin de l'hiver, les deux jeunes filles étaient liées d'une étroite amitié. Marguerite apportait son ouvrage et passait auprès de Mary presque toutes ses soirées. Job Legg prenait son livre et sa pipe et montait chez Barton pour chercher sa petite fille, prête à causer ou à lire, à se taire et à fumer, suivant les occasions. Et surtout, et toujours à faire ce qui plaisait à sa chère Marguerite. Je ne pourrais dire quel point de contact avaient entre elles ces deux jeunes filles d'humeur si différente. L'une était sage, l'autre était folle. Mais il est si bon d'avoir une amie qui réfléchisse pour vous et dont le jugement sache prévoir les difficultés qu'elle écarte. Bref, elle s'aimait. Mary, toutefois, ne faisait presque rien sans le dire à Marguerite, qui se gardait bien de lui confier le seul secret important qu'elle eût au fond de son cœur. Elle ne lui disait pas qu'elle avait un galant, un beau jeune homme dont elle recherchait la présence et que pourtant elle n'aimait pas. Elle rougissait néanmoins en l'entendant nommer, caressait le doux espoir de l'avoir pour mari, surtout d'être sa femme. Et pour lui, écartait tous ses adorateurs, jusqu'à Jem qu'il aimait depuis sa plus tendre enfance, qui n'osait lui parler voyant qu'elle s'éloignait, et qui, désespéré, gardait tout son amour. Barton connaissait depuis longtemps la nature de l'affection qu'avait Jem pour Mary, et, s'il n'en disait rien, c'est qu'il trouvait sa fille trop jeune pour la mettre en ménage. Mais il faisait bon accueil au fils de son ami, qui lui souriait pour gendre, car c'était un garçon plein de conduite, ayant un bon métier, du courage et de la force, et qui avait de l'esprit quand Mary n'était pas là pour lui tourner la tête. Un jour, vers la fin de février, par un vent d'est qui soulevait des tourbillons de poussière, car il gelait si fort qu'on n'eût pas dans toute la ville trouvé une seule goutte d'eau, Mary, la figure enveloppée de son châle, revenait de chez Miss Simmons et rentrait en courant sans regarder autour d'elle. « Est-ce toi ? » dit-elle à Marguerite, qu'elle ne s'attendait guère à rencontrer. « Où vas-tu donc comme ça, chargée de ce gros paquet ?»«
Précisément chez toi. Ce paquet est mon ouvrage, trois robes de deuil qu'il faudrait pour demain, et que j'ai dit hier seulement. J'ai gardé la jupe et les manches pour le soir, comme étant plus facile. » Car malgré leur chagrin, ces dames sauront bien voir comment tout cela est fait.
Mary alluma la chandelle, fit du feu, essuya la petite table et, s'asseyant près de Marguerite, prit l'une des jupes qu'elle se hâta d'assembler. Tout en travaillant, elles se mirent à causer. Elles parlèrent d'abord de l'étoffe qu'elle tenait, de sa qualité, de son prix, du défunt et des personnes pour qui étaient les robes.
« Je me demande toujours, » dit Mary, « pourquoi on porte le deuil? Ce n'est pas joli, ça ne va bien à personne, et c'est une grosse dépense que bien des gens ne peuvent pas faire. »«
Je crois que c'est une mode qui est venue, » répondit Marguerite, « pour occuper ceux qui restent à les distraire de leur chagrin. Voilà ces dames qui gémissent et qui se désespéraient, car après tout c'était leur père et leur mari. Eh bien, quand elles m'ont parlé de leurs robes, une fois animées, tu n'aurais jamais dit que c'étaient les mêmes personnes. »
Tout le monde n'est pas comme ça, la vieille Alice, par exemple.
Il y en a peu comme elle, interrompit Marguerite. Peut-être pas une sur mille. Je crois même qu'eût-elle un grand chagrin, elle ne le montrerait pas. T'ai-je raconté ce qu'elle m'a dit un jour où elle m'a trouvé tout en larmes?
Non, mais je veux savoir d'abord ce qui te faisait pleurer.
C'est une peur que j'ai. Il y a des moments où je ne veux pas y penser, et d'autres où je ne peux pas faire autre chose. »
On entendit pendant quelques instants que le bruit des deux aiguilles.
« Seras-tu payé seulement de la façon de ces trois robes ?» demanda Mary pour rompre le silence. « Je n'y compte pas. Il y aura beaucoup de dettes,
et l'on ne paiera pas du tout. Mais c'est justement l'espèce de monde que le deuil console un peu. Et je sais leur faire plaisir, autrement je n'aurais pas pris l'ouvrage. Le noir me fait si mal aux yeux. Tiens, Mary, c'est là ce qui me désolait. Je me sens devenir aveugle. Que deviendra mon grand-père lorsque je n'y verrai plus ? Et la pauvre fille se mit à sangloter. Mary s'agenouilla devant elle, espérant, comme tous les gens sans expérience, la consoler en lui disant qu'elle se trompait. « Malheureusement non, » répondit Marguerite, qui fixa sur Mary ses yeux inondés de larmes. « Je sais que je ne me trompe pas. Il y a longtemps que ma vue baisse, et le médecin que j'ai été voir à l'automne m'a bien dit que je ne resterai pas dans une chambre dont les volets seraient fermés pendant plusieurs semaines. Je deviendrai aveugle peut-être avant un an. Mais je ne peux pas m'enfermer sans rien faire. Il faut vivre avant tout. Je suis allé chez un autre qui m'a donné une certaine eau pour me laver les yeux. J'en ai usé 3 bouteilles qui coûtent 2 shillings chacune. Et tout cela n'a rien fait. Je ne te vois plus, Mary, dit-elle en fermant l'un de ses yeux. Tu me fais l'effet d'une tache noire dont les bords sont brillants. Mais je ne te reconnais pas. Et de l'autre œil, y vois-tu ? Presque aussi bien qu'autrefois. Seulement, quand j'ai cousu longtemps, j'ai comme du feu devant moi. Je ne distingue plus les objets que je veux voir. Tout est clair, excepté ce que je regarde. Je suis retourné chez les 2 docteurs, qui m'ont répété la même chose. Me reposer, ne rien faire, surtout ne pas coudre le soir. Et précisément la lingerie se paye si mal que j'ai profité des deuils, si nombreux cet hiver, pour gagner un peu plus. C'est une folie, Marguerite, que tu blâmerais chez d'autres. C'est bien vrai, mais que veux-tu ? Il faut d'abord manger. Grand-père ne regarde pas à perdre 1 ou 2 jours pour aller herboriser ou chasser des insectes. On est souvent à court. Et puis comment lui dire que je m'en vais être aveugle ? Oh, Mary, je le regarde toujours pendant qu'il ne me voit pas. C'est pour apprendre sa figure et le savoir par cœur. Ensuite, je ferme les yeux pour reconnaître si je pourrais m'en souvenir. Quelque chose me console. Tu as entendu parler de Jacob Butterworth, le tisserand musicien qui a conduit les chœurs dans beaucoup de festivals et à qui Madame Catalani, une chanteuse étrangère, est venue prendre la main devant tout le monde pour le complimenter. Je lui ai dit que je voudrais bien qu'il m'apprît à chanter. Il a trouvé que j'avais une belle voix et toutes les semaines, il me donne une leçon. Il assure qu'en chantant, je pourrais gagner de l'argent. Nous verrons cela une fois que je serai aveugle. Tout à coup, des pas retentirent dans la petite cour, et plusieurs personnes passèrent en courant sous la fenêtre. « Qu'y a-t-il ? » leur demanda Mary. « Le feu chez les Carson ! On voit d'ici la flamme !»« Marguerite, mets ton châle et dépêche-toi. Je n'ai jamais vu de manufacture brûlée, et l'on dit que c'est si beau !» Ce qu'il y avait de réel, au fond de cet empressement, c'était le désir de Mary de changer le cours des idées de Marguerite et de se distraire elle-même de l'impression douloureuse que lui avait faite la pensée de voir son ami aveugle. Elles trouvèrent Barton sur le seuil de la porte et lui dirent où elles allaient. « Un incendie superbe !» répondit-il. « Pas une goutte d'eau pour l'éteindre. Un bon vent qui l'attise. Et les Carson, qui ne demandent pas mieux que de laisser tout brûler. Ils sont bien assurés. Les machines étaient vieilles. Ils vont pouvoir les refaire sur le nouveau modèle, sans tirer un sou de leur poche. C'est tout bénéfice pour eux. » La filature de la maison Carson était située dans le vieux quartier, où elle se déployait de l'est à l'ouest, sur une étendue de terrain assez considérable, entourée de tous côtés de rues étroites, d'anciennes constructions encombrées de marchandises. Ce voisinage rendait plus effrayant l'incendie qui venait de se déclarer. La façade occidentale où se trouvait l'escalier donnait sur l'une de ces rues fangeuses, où se pressent, à côté du prêteur sur gage, les tavernes suspectes, les boutiques de fripiers, les magasins de guenilles, de tessons et de vieux os, les échoppes où se vendent les plus tristes aliments, d'autant plus chers qu'on les débite à des gens plus pauvres sous un plus mince volume. La partie orientale n'était séparée de la maison d'en face que par une ruelle sombre et mal pavée d'environ 6 ou 7 mètres de large. Maison autrefois splendide, comme l'attestaient les sculptures, les ornements de la façade, est maintenant occupée par l'un de ces cafés de bas étage qu'on nomme Palais du Djinn.
Au moment où Mary et sa compagne arrivèrent près du théâtre de l'incendie, un murmure profond s'éleva de la foule et trahit l'émotion violente qui la saisissait tout à coup. La partie occidentale, vers laquelle le vent chassait la flamme, était couronnée d'une gerbe étincelante dont le rayonnement éclairait jusqu'à la voûte du ciel. Mais en dépit de la beauté que présentait ce spectacle grandiose, c'était du côté de la ruelle sombre que la foule tournait ses regards avides. Là, au milieu du nuage de fumée qui sortait de chaque ouverture, on apercevait, à l'une des fenêtres du quatrième étage, les mains suppliantes et parfois la figure désespérée de deux hommes, deux ouvriers, qui, restés seuls longtemps après les autres dans cette partie de la fabrique, ne s'étaient aperçus de l'incendie qu'après la destruction totale du vieil escalier de bois situé dans l'aile opposée.
« Il n'y a pas d'échelle !» s'écria Mary, dont l'émotion était extrême.
« On en cherche partout !» lui répondit son voisin. « Mais les maçons et les couvreurs ont fermé leurs ateliers. Il est tard et... »«
Wilson ! Oh mon Dieu ! Le vois-tu, Marguerite ? J'ai bien cru le reconnaître !»
Et la pauvre Mary sentit ses forces défaillir.
« Partons !» murmura-t-elle. « Marguerite, emmène-moi !»
Mais la foule, qui les pressait de toutes parts, se replia sur elle-même, et entraînant les deux jeunes filles, les rapprocha au contraire du lieu qu'elles voulaient fuir.
« C'est Jem Wilson et un pompier qui apporte une échelle !» dit à Marguerite un homme de grande taille qui se trouvait auprès d'elle.
« Que font-ils ? Dites-moi ce que vous voyez !»
demanda Mary, dont le cœur battait à se rompre.
Ils appuient leur échelle contre le mur du café. L'un des deux hommes vient de tomber, l'un de ceux qui sont dans la manufacture. C'est la fumée qui l'étouffe, miséricorde. L'échelle est bien trop courte. Pauvre diable, tout est fini pour eux. En supposant qu'on trouve une autre échelle, ils seront morts avant qu'on y arrive. Que Dieu ait pitié de leur âme.
Un sanglot s'échappa de toutes les poitrines. Mary s'attacha au bras de Marguerite, qu'elle serra de toutes ses forces. Deux minutes s'écoulèrent.
Ils ont entré l'échelle dans la maison où est le café, parce que sans doute elle embarrassa dans la foule.
Un cri formidable se fit entendre, une acclamation prolongée, suivie d'un silence effrayant, tandis que chacun, dans l'attente, suspendait son haleine. De l'une des mansardes située en face de la fenêtre où se trouvaient les deux ouvriers sortait le bout de l'échelle, que plusieurs hommes maintenaient horizontalement et dirigeaient vers les malheureux qu'il fallait sauver en toute hâte, car la flamme grandissait et la fumée les enveloppait de toutes parts. Enfin l'échelle s'appuya sur le bord de la fenêtre opposée, formant à une hauteur vertigineuse un pont aérien pour qui oserait le franchir. La fumée déroba un instant à la foule ce qui se passait au-dessus de la ruelle. Puis un coup de vent déchira le sombre voile, et Mary put reconnaître celui dont le pas assuré traversait l'échelle qui se balançait dans l'espace. Il s'arrêta une seconde devant la fenêtre, où il allait entrer comme pour reprendre haleine, et s'élança au milieu des flammes qui commençaient à envahir cette partie de la fabrique. Qui peut savoir combien il resta dans cette fournaise? Quelques secondes peut-être, mais le temps n'a pas toujours la même durée. Il est bien long quand les battements du cœur le mesurent au milieu d'une horrible attente. Le brave jeune homme reparut néanmoins, portant dans ses bras un corps inanimé.
C'est Jem Wilson qui a sauvé son père,
dit tout bas Marguerite, mais Mary l'avait su avant elle. Restait à franchir de nouveau le pont fragile qui pliait sous cette double charge, et privé de l'usage de ses bras qui les avaient servis de balancier lorsqu'il était passé d'abord, Jem arrivera-t-il sans faillir au bout de sa course périlleuse? Mais l'œil fixé sur la mansarde qu'il lui faut absolument gagner, puisant une nouvelle force dans le sentiment du danger qui menace son père, il aborde la maison où l'attendent ceux qui le délivrent de son précieux fardeau. La foule, qui était restée silencieuse, n'osant respirer devant cet homme que la moindre émotion pouvait précipiter dans l'abîme, fait éclater ces applaudissements enthousiastes qui couvrent les rugissements de la flamme et les sifflements du vent.
« Et son père ?» s'écrièrent des milliers de voix.
« Il a repris connaissance, » répond l'un des hommes de la mansarde. « Il va mieux, ça ne sera rien. »
Les commentaires circulent au milieu de cette masse puissante qui s'agite sous l'impression qui la domine, comme les flots sous la tempête. Tout à coup, le silence se rétablit, car l'intrépide jeune homme a de nouveau traversé l'échelle pour aller au secours du malheureux qui reste encore à sauver.
Est-ce la fatigue, le souvenir du péril ou le vertige qui le saisit? Mais au retour, il chancelle sous le fardeau qui l'emporte, cherche d'un pied tremblant le frêle barreau qui doit le supporter et s'arrête au milieu de sa course, essayant de retrouver son équilibre, sans penser un instant à se dessaisir du poids qui l'accable.
« Elle s'évanouit, aidez-moi à la soutenir !»
s'écria Marguerite en voyant la pauvre Mary fermer les yeux et incliner sa tête sur son épaule. Mais nul n'entendit les paroles de la jeune fille. La vie de chacun était concentrée dans le regard qu'il fixait sur ces deux hommes suspendus dans l'espace. Au même instant, une corde, ayant un nœud coulant à son extrémité, fut lancée par l'un des pompiers qui se tenait dans la mansarde, et comme un lasso, vint saisir à mi-corps le pauvre Jem, qui, rencontrant un point d'appui, se laissa guider par ceux qui tenaient la corde, avança, bien que timidement encore, et finit par se trouver à portée des bras qui se tendaient pour le recevoir. Cette fois, les cris de la multitude se mêlèrent à une sorte de danse frénétique, et l'expression de sa joie tint du délire. Puis, avec cette mobilité qui la caractérise, elle quitta le lieu où son intérêt venait d'être si puissamment excité, pour se ruer vers l'endroit où l'incendie exerçait tous ses ravages, faisant succéder aux paroles d'allégresse les cris de fureur et les imprécations que lui arrachait la difficulté de sortir de la rue étroite qu'elle encombrait, et les meurtrissures qui étaient la suite inévitable de son fol empressement. Quand la foule se fut écoulée, Marguerite, qui avait employé toute sa force à maintenir debout sa compagne, craignant avec raison qu'on ne la foulât aux pieds si elle venait à glisser, abandonna doucement le corps inerte qu'elle ne pouvait plus soutenir et l'étendit sur le pavé. Le froid de la pierre et la position horizontale eurent bientôt ranimé la jeune fille, qui jeta un regard surpris autour d'elle. Puis, se rappelant tout à coup la cause de sa terreur, elle leva les yeux vers la fenêtre d'où l'échelle avait été retirée.
« Ils sont en sûreté, » lui dit Marguerite. « Bien vrai, tu ne me trompes pas, ils y sont tous les deux. » « Informe-t'en plus tôt, demande à ce pompier qui passe. »
L'individu que Marguerite avait pris à témoin confirma les paroles qu'elle venait de dire.
« Et pourquoi l'avoir laissé retourner une seconde fois ?»
demanda Mary d'un ton de reproche.
« Est-ce qu'on a pu l'en empêcher ? Dès qu'il a vu que son père n'était qu'étourdi par la fumée, il est parti comme un trait, disant qu'il savait mieux qu'un autre où se trouvait le pauvre diable qui était resté là-bas. Autrement, nous aurions tous couru. » « Car on ne pourra jamais dire que les pompiers de Manchester aient reculé devant le péril. »
Les deux amies reprirent en silence le chemin qui conduisait chez elles. Comme elles approchaient de leur demeure, le père Wilson, pâle et le regard voilé sans doute par l'émotion, mais aussi bien portant, du moins en apparence, qu'il l'avait toujours été, les rejoignit, les accompagna pendant quelques instants et leur souhaita le bonsoir, après leur avoir parlé de l'affreuse position où il venait d'être placé. Puis, quand il eut fait quelques pas, il s'arrêta, vint retrouver Mary et lui dit tout bas, d'une voix tremblante qui semblait l'implorer.
« Si par hasard, ce soir, tu voyais mon garçon, dis-lui, pour l'amour de moi, une ou deux bonnes paroles. Tu le veux bien, n'est-ce pas? Je te le demande, Mary, et si tu le fais, je te bénirai. »
Mary baissa la tête sans lui répondre. Il était déjà loin quand elle releva les yeux. Burton les entendait, et bien qu'il ne voulait pas les questionner, il n'en brûlait pas moins de savoir tout ce qui s'était passé. Marguerite se mit à lui raconter les événements de cette soirée dramatique, et ne tarda pas à captiver complètement l'intérêt de son auditeur, qui laissa éteindre sa pipe, la retira de ses lèvres, et, se levant enfin sous l'empire d'une émotion dont il n'était plus maître, fit le serment d'accorder Mary à Jem s'il la demandait en mariage, alors même qu'il n'aurait pas un penny. Marguerite se mit à rire, et Mary, dont l'émotion était calmée, sembla n'écouter les paroles de son père qu'avec un vif déplaisir.